avec le sentiment amoureux, apparaît le choix libre du partenaire. Et avec le choix libre du partenaire, apparaît la pudeur. Et avec la pudeur, apparaît la jouissance en dehors de toute finalité reproductive. Non mais vous imaginez, c'était 2 millions d'années avant mai 68. Le corps permet à la femme de s'affranchir du mâle dominant et de poser son choix, son propre choix, et d'inventer ce qui fait encore débat aujourd'hui, l'amour.
Bernadette Gruson revient au théâtre d'Arras avec son nouveau spectacle « Quelque chose ». Après « Abattoir et fesses », cette nouvelle création continue de percer l'intime à base de punchlines verbales avec une mise en scène physique, voire acrobatique. Elle nous parle de trucs, de périls rouges, bref, elle nous parle de ses premières règles mais va beaucoup plus loin en évoquant la sexualité sous presque toutes ses formes. Entretien avec Bernadette Gruson pour mettre à nu sa nouvelle création. Bernadette Gruson, vous êtes au retour au Théâtre d'Arras pour présenter un nouveau spectacle après Abattoir et fesses qu'on avait déjà vu ici, c'est Quelque chose. Première question, évidemment, je pense que Quelque chose est adapté d'une bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, alors en fait, plus qu'adapté, c'est inspiré de le Sex Story, qui est une bande dessinée publiée aux Arènes de Philippe Brenaud et Laetitia Corin. Je m'en suis inspirée parce qu'elle m'a beaucoup frappée quand je l'ai lue sur cette histoire. Donc là, on parle d'une histoire de 2 millions d'années qui part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, même un petit peu après aujourd'hui. Et cette histoire m'a beaucoup frappée par ses cycles, les évolutions qui sont toujours suivies de régressions, etc. Et quand on pense au temps et à l'histoire, on pense à une frise, on pense à une ligne. Et force est de constater que notre histoire de l'humanité n'est pas une ligne, mais elle est un cercle plutôt vicieux, en tout cas en ce qui concerne le sexe et l'amour. Et on revient régulièrement sur toujours les mêmes questions, les mêmes problèmes. Et c'était ça que je souhaitais mettre en scène.
Comment on fait justement pour s'inspirer et adapter un spectacle de théâtre qui ressemble aussi à une conférence, on peut dire, qui vient d'une BD ? Est-ce que vous vous servez justement de la scénographie de la BD pour mettre en scène ?
Alors, je ne me suis pas vraiment servi de la scénographie de la bande dessinée parce qu'elle est tellement... infinie, la bande dessinée. Avec le dessin, en fait, vous avez une infinité de possibles, de représentations, de personnages, d'époques, et je passe bien entendu les costumes, les décors, etc. Donc je ne pouvais pas être aussi fidèle à la bande dessinée du point de vue en fait du traitement du dessin. Par contre, ce qui m'a beaucoup inspirée et qui a permis la construction d'une grande partie de la dramaturgie, c'est le découpage historique que Philippe Brenaud en fait a proposé pour cette bande dessinée, et ça vraiment effectivement a beaucoup nourri mon travail, et je me suis beaucoup appuyée sur ce découpage historique. Et l'autre chose qui a beaucoup nourri mon travail, c'est l'humour, parce que c'est une bande dessinée absolument hilarante, même si elle est aussi effroyable, mais la cruauté, quand on a du recul, peut nous faire rire. Et je pense que c'est là que se trouve la force où se trouve la force de cette bande dessinée, c'est le fait de nous interpeller aussi crûment et aussi concrètement avec une histoire qui clairement n'est pas jolie jolie quoi.
L'histoire, parce que ça brasse large quand même, on apprend plein de choses, il y a des choses que moi je ne connaissais pas, ça va de l'Égypte évidemment à Cléopâtre et l'histoire du Godmiché, mais il y a aussi le mythe d'Adam et Ève que vous évoquez comme des Bonnie and Clyde de la chasteté, mais également aussi le mythe d'Atum que je ne connaissais pas du tout. Pourriez nous parler un petit peu de ce mythe?
Alors, en fait, effectivement, selon les traditions et selon les époques, il y a eu des mythes différents. Et le mythe d'Atum est vraiment magnifique parce que, justement, il pose comme fondation la connaissance, l'accès à la connaissance par soi-même et donc par la masturbation. Donc c'est vraiment un mythe qui repose sur la question de la masturbation, ce qui est en fait complètement transgressif quand on pense à l'histoire de la masturbation dans la grande histoire et même encore aujourd'hui, c'est très tabou. Il y a une liberté petit à petit avec l'accès aux sex toys qui devient, je dirais, plus un accès qui devient plus commun, mais c'est très récent. Enfin, c'est quand même vraiment pas du tout quelque chose qui est banal. Quand un adolescent entre justement dans son adolescence, on se dit pas tiens, je vais lui offrir un manuel de masturbation, ou à une jeune fille qui entre dans l'adolescence, on se dit bah tiens, je vais lui offrir un sextoy pour qu'elle puisse connaître son corps et se connaître elle-même. Et je trouve ça en même temps étrange que justement ce soit aussi tabou dans notre dans nos sociétés, parce que c'est pas que la nôtre, c'est quand même vraiment global, parce que finalement quand on prend un peu de recul par rapport à cette question de la masturbation passer l'éclat de rire de gêne et de voilà qui comme on le voit est quand même bien imprégné dans nos schémas et dans notre inconscient, hommes comme femmes d'ailleurs, en fait surtout les femmes d'ailleurs plus que, mais bon bref, en tout cas si on prend du recul finalement c'est quand même assez génial, parce que c'est dire aussi pour être épanoui et pour se connaître et ne pas laisser entre les mains de quelqu'un d'autre qui pourrait du coup aussi nous obliger ou nous emmener sur des terrains que l'on ne souhaite pas, prenons en main notre propre sexe plutôt que de le laisser aux mains de diktats. Alors là, je vais parler de manière plus générale, de diktats religieux, politiques, qui contraignent, entravent la jouissance, mais aussi la liberté. Et avec Atum, on retrouve vraiment l'essence, la vie, en fait, l'étincelle, la lumière. Voilà, c'est vraiment cette chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée quand j'ai découvert ce mythe et que je trouvais vraiment particulièrement révolutionnaire. Et c'est vrai que bon, dans le spectacle, je dis que je regrette que ma mère ne m'ait pas raconté, plutôt que Adam et Ève, le mythe d'Atum, qui, à mon adolescence, peut-être m'aurait permis d'être beaucoup plus en accord avec mon propre corps et avec cette naissance en fait de la sexualité et du désir amoureux, plutôt que là je parle de moi dans ce spectacle, mais je dis aussi que cette origine, cette découverte, peut-être que d'autres la partagent avec moi par rapport à une origine plus judéo-chrétienne, et donc j'aurais aimé ne pas être adolescente confrontée à ce choix impossible à faire entre la sexualité ou la procréation, comme si en fait les deux continents n'étaient pas réunissable, n'était pas, était en dérive l'un par rapport à l'autre, et on retrouve du coup derrière aussi en fait ce qui nourrit des schémas catastrophiques en fait de la mère et la putain, la salope, tandis que dans des sociétés beaucoup plus ouverte, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus dans l'égalité et dans la connaissance de soi, on n'est pas dans cette dichotomie sexe ou procréation ou sexe et amour. Et je pense vraiment que c'est un progrès social indéniable que de réunir ces deux facettes en fait de la sexualité qui sont les plaisirs charnels, la jouissance et le désir de procréation ou pas. Mais la procréation ne doit pas être un choix qui exclut ou inclut la sexualité. On doit être libre par rapport à ça.
Le lendemain, elle sort de la salle de bain et moi j'entre. Pas moyen de nous asseoir. Les mots, eux aussi, sortent et entrent, surtout sortent, comme une charade, comme des mots lancés en vrac et dont j'aurai à chercher par moi-même plus tard le sens. Se préserver, autrement dit rester vierge. Se méfier des garçons. Être discrète. Ne pas faire le premier pas. S'effacer. S'abandonner. Être prévenante. S'occuper des autres. Être digne. Ne pas porter de tenue affriolante. S'effacer encore, se donner, lui laisser l'ambition, préférer l'ombre à la lumière, et s'occuper encore du foyer, des enfants, et se tenir à ses règles susnommées pour le meilleur et pour le pire. Le tout accompagné d'un livre qu'elle me donne en me disant ferme la porte s'il te plaît, j'ai mis le chauffage, la salle de bain va refroidir. La vérité sur l'amour, éducation sexuelle GF de 12 à 15 ans.
Alors, en parlant de livres, on va y revenir, puisque là, c'est la première scène. Hein, le spectacle commence dans une salle de bain. Donc, vous évoquez les premières règles, l'impact, évidemment, que ça a sur le corps féminin, sans doute, mais aussi sur la famille. Cette espèce de tradition dont vous nous avez fait l'effluve, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, avec le champagne, entre autres. Et ce fameux livre, La vérité sur l'amour. Alors, il vient de où, ce livre? C'est un livre que vous a vraiment présenté votre mère ou...
Je ne mens jamais dans mes spectacles. Et donc, j'ai vraiment reçu ce livre au moment de mes premières règles. Je me souviens avoir été assez perplexe concernant ce livre. Je me souviens d'une sorte d'excitation complète en me disant oh, on me prend vraiment pour une grande. On me donne un livre sur lequel c'est écrit « Éducation sexuelle ». Et donc je me souviens d'une forme de fierté aussi, de me dire là ça y est quoi, on me prend plus pour une gamine, et en même temps un certain trouble en ouvrant le livre. Vraiment c'est sincère et c'est réel, c'est historique. Des photos en noir et blanc avec des petits bébés avec un côté vraiment très, d'ailleurs j'en parle dans le spectacle, très pochette de disque d'Yves Duteil. Et je me souviens vraiment d'un moment un peu perplexe à me demander si c'était vraiment en fait un livre d'éducation sexuelle ou plutôt un livre de poésie ou de... pour traiter le sujet, mais en tournant un peu autour, sans aller au cœur du sujet. Et je n'ai pas vraiment été très loin dans ce livre. Je l'ai vite mis de côté en me disant, ouais, bof, bon, en fait, bon, Ok, je me souviens vraiment avoir feuilleté le truc sans y trouver ce que je pense, sans me le dire, j'attendais. Et à cette époque-là, c'est sûr que c'est avec le recul, mais je me souviens d'un arrêt en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces photos noires et blancs de petits bébés, d'une maman qui fait un câlin à son enfant ?» Où je m'étais dit « Tiens, est-ce vraiment un livre d'éducation sexuelle ou est-ce un livre pour apprendre à être une bonne mère ?»
Alors, on peut parler aussi de la participation, l'interaction avec le public. Ça, c'est une chose qui marche très bien, on a pu le constater. Comment vous avez travaillé un peu ça en off? Comment vous savez comment les gens vont réagir? Ils doivent quand même dessiner une vulve sur un post-it. C'est pas toujours évident quand même.
Non, c'est pas évident du tout. Et en fait, ce genre de proposition, on se dit, ça passe ou ça casse. Mais tant qu'on n'y va pas à fond, on ne le saura pas. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel la première fois, en janvier, quand j'ai fait la première sortie de résidence au Théâtre Massenet à Lille, quand j'ai proposé de dessiner une vulve, j'étais tellement convaincue, j'étais tellement heureuse de proposer cet atelier vulve au public, j'étais tellement enthousiaste, tellement sûre que forcément ça marcherait, que ça a marché. Et je pense que je garde à chaque représentation cet élan, je prépare quand même le public, hein. Je leur dis qu'à la préhistoire, quand même, ils en avaient une très belle maîtrise et que je me suis documentée, que si le public a des doutes, il peut aller lui-même aussi faire des recherches et voir à quel point, dans les grottes préhistoriques, il n'y a pas que des Vénus, la fameuse Vénus des cavernes, il y a aussi beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que des mammouths non plus. Il y a des vulves et c'est assez troublant de découvrir quand j'ai découvert ça. Et d'ailleurs, pour vous dire aussi où je l'ai découvert, en fait, cet élément historique, dans un livre qui s'appelle « Une autre histoire du genre », qui propose une relecture de l'histoire de l'art d'un point de vue autre que cette histoire de l'art racontée par les hommes, avec des artistes hommes mis en avant. Et donc, dans ce livre vraiment fabuleux, ce sont deux femmes, en fait, qui ont essayé de mettre en avant toutes les femmes artistes qui ont, elles aussi, contribué à notre histoire de l'art, à notre patrimoine, qu'on pourrait aussi appeler un matrimoine, et qui, malheureusement, sont trop souvent effacées au profit du fameux Raphaël ou du fameux, je sais pas, Léonard de Vinci, Botticelli, etc., qui sont par ailleurs formidables, mais je veux dire académiques. Et dans cette histoire de l'art d'un autre genre, je suis tombée sur cette pépite au sujet des vulves et je trouvais ça formidable de le découvrir et de le mettre dans le spectacle pour qu'on se souvienne. Voilà.
Il y a aussi une performance assez physique sur scène. Vous occupez pratiquement tout l'espace avec très peu, enfin, il n'y a pas une scénographie énorme, c'est très minimaliste. Pareil, comment ça se travaille ça? Est-ce qu'il y a des choix? Alors j'imagine que quand on est comédienne et en même temps metteur en scène, c'est un peu plus simple parce qu'on sait où on va. Comment utiliser de l'espace justement dans ce genre de spectacle?
Alors déjà, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quand on est comédienne, autrice, metteuse en scène, c'est plus simple. Je ne sais pas si je dirais que c'est plus simple le fait d'endosser les divers postes, en fait, si je peux les appeler comme ça. Je pense qu'il y a des avantages, il y a aussi vraiment des inconvénients. L'avantage, c'est que je manipule le texte, la mise en scène, la scénographie, les lumières, le son, comme de la matière, et j'ai parfois l'impression d'être comme une sorte d'architecte qui manipule ces différentes matières au plateau pour construire quelque chose, presque plus dans une posture de plasticienne qui aurait dit des matériaux de composition très différentes et qui essaye de faire quelque chose. Voilà. Quand j'arrive à être moi dans cette posture de plasticienne, entre guillemets. Ça, il y a une fluidité, effectivement, il y a un passage d'un langage à un autre qui se fait assez facilement. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça, parce que parfois l'écriture m'amène dans des endroits très fleuves, et je me retrouve après au plateau avec une matière fleuve qu'il faut que je dompte, en fait, en tant que metteuse en scène. Donc, il y a aussi ce va-et-vient, quand même, qui parfois n'est pas très simple, parce que chaque partie que je travaille a envie d'avoir sa place, et bref. En tout cas, sur la question du physique, oui, c'est très physique. Tous mes spectacles ont toujours une partie... Enfin, il y a un engagement physique important. Je pense que dans celui-là, en particulier, par rapport au sujet qu'il traite, j'avais aussi envie que mon corps, en fait, parle autant que le texte parle. Et il me semblait vraiment important que, quand on parle de sensualité, que je puisse, à un moment donné, vraiment moi aussi travailler sur qu'est-ce que c'est ma propre sensualité et comment je l'incarne au plateau, et pas juste en parler comme quelque chose d'extérieur, comme une conférencière, justement, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus incarné, beaucoup plus organique. Quand je parle de combat, et c'est pour ça qu'arrivent les protections et les rollers en référence au roller derby. J'ai découvert le roller derby avec l'équipe de Lille, qui est vraiment une équipe absolument incroyable. Et c'est un sport que je trouve vraiment bluffant, en fait, et qui mérite d'être développé, d'être connu. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Enfin, plus qu'un coup de cœur, en fait, ça, je trouve ça vraiment profond, en fait, ce que ça vient raconter des femmes et du corps des femmes, parce qu'elles sont à la fois hyper sexy, hyper sensuelles dans leur tenue, avec les petits shorts, et en même temps, tous les corps sont présents, il n'y a aucune discrimination, et puis elles sont combatives, elles y vont, elles foncent, tout en ayant en même temps les deux équipes l'une envers l'autre une très grande une sororité. Ce mot n'est pas forcément très à la mode, parce que voilà, il a un côté un peu kitsch, la sororité, comme si, mais c'est vrai, dans le combat il y a en même temps une jouissance du combat, et pas ce côté agressif qu'on peut trouver dans certains sports masculins, avec vraiment ce truc un peu voilà, et on sent vraiment le plaisir de jouer à se battre l'une contre elle, et en même temps une bienveillance réelle, pas du tout pas pour faire joli sur le magazine ou en couverture de l'équipe, quoi. Les valeurs que véhicule ce sport, je les trouve vraiment d'actualité et vraiment puissantes. Quand je parle de puissance, c'est pas simplement dans la puissance qu'elle dégage sur le terrain, mais aussi par rapport au changement du modèle qu'on peut se faire d'une femme, d'un groupe de femmes, de la position des hommes, parce qu'il faut savoir qu'au roller derby, il y a des pom-pom boys, par exemple. Et ça, c'est formidable aussi de déplacer les clichés de la pom-pom girls, de la cheerleaders, en fait, et de que ce soit des hommes qui le fassent, que aussi on permette aux hommes d'être dans cette sensualité, dans chauffer la salle, à bouger du popotin, à activer, en fait, ces petits pompons. Moi, je trouve vraiment que là, il se passe quelque chose qui peut avoir un vrai impact profond sur notre inconscient et dans la durée pour l'humanité. C'est peut-être des grands mots, hein. Les auditeurs vont peut-être me trouver un peu enflammée, mais il me semble qu'aujourd'hui, en 2018, il est temps de passer à autre chose et de faire quelque chose, c'est aussi pour ça que j'ai appelé ce spectacle quelque chose, de faire quelque chose de réel, de concret, chacun et ensemble, sur ce thème-là, arrêter d'attendre que voilà, les quotas sont en place depuis des années, on ne peut pas dire que ça nous aide à être mieux, dans une meilleure égalité homme-femme. Ça fait avancer certaines choses, mais ça me paraît être en surface. Et je pense que là, il y a comme quelque chose qui se passe vraiment dans aussi le mouvement MeToo, Balance ton porc, l'émergence et le grand succès, par exemple, des rollers derbyeuses. Et il y a vraiment quelque chose qui me paraît passionnant et réjouissant, parce que ce ne sont pas des choses de surface pour dire de, mais vraiment des choses qui se passent en profondeur, qui ne cherchent pas non plus à faire la couverture des grands magazines ou des grands journaux ou à passer à la télé. Non, c'est des choses concrètes que des personnes font dans leur vie concrète. Et puis il y a comme ça un côté viral. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec MeToo, et tant mieux, en fait. Les réseaux sociaux ont parfois un côté sombre, et je trouve que là, c'est un côté vraiment très lumineux du réseau social. C'est qu'il permet cet aspect viral, et que tout le monde, pas simplement en fait une comédienne ou une actrice très connue qui va prendre la parole et qui va devenir comme ça une sorte de chef de file. Là, il y a quelque chose de individuel et collectif à la fois. Et vraiment ça, je pense que si on arrive à prendre du recul par rapport à la violence que peut avoir dans nos oreilles un titre comme « Balance ton porc », c'est vrai que c'est pas du tout poli. C'est impoli, c'est brut, c'est brusque. Mais est-ce que l'histoire a été polie avec les femmes, avec les homosexuels, avec les lesbiennes, avec les peuples colonisés et qui ont été utilisés comme esclaves et toute cette discrimination qu'il peut y avoir encore sur la couleur de peau? Non, l'histoire a vraiment pas du tout été polie avec, on le voit bien pendant le spectacle avec les quelques exemples que je reprends. Et donc, pourquoi être choqué par un titre comme Balance ton porc, et si on prend un peu de recul, comprendre que pour faire vaciller cette structure de domination qui est quand même bien bien costaud de millions d'années, il faut sûrement quelques impolitesses et des choses un peu brusques pour que cette structure craquelle. Et je pense que vraiment ce sera bien pour les femmes, mais ce sera aussi tellement bien pour les hommes. Les hommes ont tout à gagner aussi, c'est vraiment pas que les femmes, je pense vraiment si on se pose les bonnes questions, on se rend compte que la question de ces inégalités, elle va bien plus loin que simplement un conflit homme-femme. D'ailleurs, c'est pas un conflit homme-femme. C'est de l'incompréhension, des schémas, des clichés, des places qui sont attribuées sans qu'on les re-questionne de génération en génération, et qui ne fonctionnent pas et qui ne rendent pas l'humanité lumineuse et épanouie. Et cette jouissance, elle apportera de la liberté. Et cette liberté, en quoi est-elle dangereuse? En quoi jouir est-il dangereux? Je pose vraiment la question. En quoi un couple homosexuel est-il un danger par rapport à d'autres dangers réels qui sont une bombe nucléaire ou des armes qui sont accessibles par n'importe quel citoyen et qui tuent jusqu'à des enfants dans des écoles en rafale. Là, vraiment, peut-on juste, en fait, prendre un peu de recul et je pense, voir les choses un peu autrement, déplacer le regard et calmer un peu certains, peut-être aussi certaines appréhensions sur ces questions de sexe et d'amour.
Je comprends que les femmes soient gravées dans le marbre des grottes préhistoriques, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit encore gravé dans le marbre de nos inconscients. Non, parce que quand tu penses à la préhistoire, quand tu penses au corps, le corps à la préhistoire. Il l'a inscrit dans notre chair. Une révolution, une vraie révolution. Le corps a permis une évolution phénoménale. Le corps ne s'est pas dit « Ah tiens, je vais faire évoluer les hommes », mais quand même pas trop les femmes, on ne sait jamais. Elles pourraient en profiter pour s'émanciper. Dans le corps, il n'a fait aucune discrimination. Le corps, par exemple, vous voyez les chaleurs qui se trouvent sur les fesses des femelles, les chaleurs disparaissent. Du coup, un autre rapport au sexe est possible. C'est la fin du sexe qui est lié au cycle de reproduction. On peut jouir quand on veut. L'os pénien, il disparaît. Du coup, le pénis devient plus long, plus fort, plus gros. Le vagin, non, il bascule pas le vagin, il bascule, il s'allonge, il s'approfondit. Les poils, oui, les poils disparaissent. Pour ne laisser que la chevelure et quelques poils ici ou beaucoup là, ça dépend. Et ce qui apparaît, ce sont les fesses. Les fesses apparaissent grâce au redressement de la stature et au renforcement des muscles fessiers. Les fesses sont le grand succès anatomique de tous les temps. Les fesses, objet de désir unisexe, dès leur apparition, il sera désormais impossible d'imaginer un monde sans fesses.
Avant de terminer, quelques mots aussi sur l'exposition Miroir, qui est dans le hall du théâtre d'Arras, qui a été réalisée avec des enregistrements audio effectués avec des coiffeuses. Vous pouvez nous en parler un peu?
Alors, les coiffeuses, donc c'est le premier volet de ce triptyque sur le sexe et l'amour, sur le corps aussi, sur le déplacement du regard, hein, j'en parlais juste avant. J'ai souhaité mettre en abîme, en fait, des œuvres d'art qui mettent en scène un nu, masculin et féminin, donc il y a vraiment une parité aussi dans les choix des œuvres que le public est amené à découvrir au travers de ces coiffeuses. Et donc l'œuvre en fait se révèle au travers d'un miroir dans lequel on se voit aussi. Donc ça, l'œuvre vient dans votre reflet ou vous êtes dans le reflet de l'œuvre, tout dépend comment on voit les choses. Et c'était vraiment aussi pour inviter à regarder autrement le nu, à être aussi plus à fleur de peau par rapport à ces œuvres d'art dont certaines en fait sont tellement connues qu'on les voit même plus vraiment, comme par exemple « Déjeuner sur l'herbe ». Et donc, ce qu'on entend en fait dans le casque, le montage sonore, ce sont des impressions, des surprises, des commentaires que j'ai enregistrés auprès d'un très très large public, hommes, femmes confondus, même en termes d'âge, hein, y a une grande variété. La cadette a 8 ans et l'aînée a 92 ans, je crois. Donc, y a un joli panel en fait de personnalité, d'horizon sur ces, enfin de prise de parole par rapport à ces coiffeuses, et, enfin surtout à cette œuvre d'art. Et vraiment l'idée c'était d'amener les gens à déplacer leur regard et à percevoir un nu autrement au travers aussi de tous ces petits commentaires, comme si c'était un peu toutes les voix qu'on a dans notre tête qui nous amèneraient à vraiment regarder autrement, quoi. Voilà, c'était un projet qui amorçait en fait l'arrivée ensuite du solo quelque chose. Et le troisième projet qui viendra d'ici, je pense, deux saisons, c'est un spectacle pour adultes sur la question de la pornographie. Voilà, ça sera dans le triptyque, ce sera le dernier volet.
Il faut faire quelque chose ensemble, tous ensemble. Il faut maintenir la lumière. Sinon, il faut vraiment réussir à nous éteindre. Allez, on va faire quelque chose ensemble. À vous de jouer. À vous de jouir. Allez. Oui. Allez-y.
C'était un entretien avec Bernadette Gruson autour de sa nouvelle création intitulée Quelque chose. Avant de clore ce sujet, je vous propose d'écouter un micro-trottoir réalisé auprès des spectateurs à l'issue de la représentation publique.
La pièce, elle est déjà d'abord, je trouve, en deux parties, assez distinctes, mais quand même réunies. Et puis, ça tient aussi beaucoup à la performance de la comédienne qui a un charme fou. Et du coup, ça génère une empathie avec l'ensemble du spectacle. On s'en raconte des choses à la fois drôles, mais en même temps, c'est intelligent parce que ça fait référence à plein de textes. Et puis ça balaye 2000 ans d'histoire, voire plus. Enfin, c'était un très beau moment.
Un petit mot sur la mise en scène ? Assez minimaliste ?
Oui, minimaliste, parce qu'il n'y a pas énormément de choses, mais enfin, c'est elle-même qui se met en scène. Elle a en plus des qualités d'acrobate, de chanteuse, enfin, elle sait faire beaucoup de choses. Je trouve ça, elle remplit l'espace. Bon, c'est ça la mise en scène, en fait. C'est une mise en espace.
Et vous, madame ?
Elle a une sacrée pêche et avec peu de choses, en fait, elle crée un univers et des situations complètement différentes en peu de moments, finalement. C'est super, en plus. On le voit en étant femme, peut-être différemment.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans cette salle de bain, finalement ?
Je ne sais pas ce qui s'y passe, je peux l'imaginer, mais en tout cas, c'est en effet un bon lieu pour évoquer ce genre de choses. Et en plus, je pense qu'elle a bien résumé les choses. D'il y a 2000 ans comme de maintenant et de demain certainement.
J'ai aimé et puis quelle performance surtout. Bon après ça percute on va dire. Ça me fait penser un peu au monologue du vagin on est en plein dans cette période là les revendications des femmes, le droit au non contre les violences, contre ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'il faudrait faire aussi, ce que les femmes ont envie de faire, surtout, la liberté de faire. Voilà.
Un petit mot peut-être sur la participation très active du public. Hein. Comment vous avez trouvé ça au niveau de la mise en scène ?
C'est bien, mais c'est surprenant, quoi. Et en général, il y a toujours un peu une réticence par rapport au public à s'investir dans le spectacle lui-même. Mais là, je trouve que c'était vraiment le lieu propice. Je pense que la sollicitation était importante. Donc voilà.
J'avais déjà vu l'artiste, quand elle avait présenté Fesse. Donc j'ai une impression de continuité de spectacle. Et là, quand on en discutait un petit peu, l'impression c'est que elle a encore développé sa façon de jouer, sa scénographie. Et on est un petit peu surpris sur la fin, par le côté, roller et tout. Et puis on pouvait imaginer qu'elle pouvait prendre un masque et puis montrer que la femme rentrait, même si elle se développait, on l'a renfermée dans quelque chose. Et là, c'était mon épouse qui me disait ça, avec cette impression qu'on pouvait terminer par un voile, mettre un voile sur le personnage. On évolue ou on écoute, c'est, je trouve que c'est bien mené, quoi. C'est bien mené.
Un mot quand même, parce que ça se passe relativement dans une salle de bain, finalement,
oui,
au début, on y revient. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, votre regard en tant qu'homme, justement, sur cette histoire un petit peu, enfin, ces histoires qu'elle raconte au départ de sexualité féminine, on le perçoit différemment, évidemment, si on est un homme ou une femme. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mise en abîme, justement ?
On est dans l'intime. Bon, on est dans une salle de bain, puis ne vous faites pas trop d'illusions, allez-y, lâchez-vous. On a eu cette impression d'essayer de rentrer sur la scène, essayer de vous exprimer, et c'est pas facile, parce qu'il y a quand même un public, et on reste quand même, c'est quelque chose d'intime, cette histoire de salle de bain, c'est pas quelque chose qu'on a envie de développer ou de raconter un petit peu à tout le monde, quoi.
Ben écoutez, c'est une performance physique et artistique, comment dire, j'aurais vu la fin autrement, moi. Je pensais qu'à la fin, c'est ce que j'ai, ma première réaction, à la fin, je pensais qu'elle allait sortir les moyens de protection et un voile. Je m'attendais à voir un voile.
Mais pourquoi ce voile, justement ?
Parce que les femmes ne sortent pas de l'obscurantisme. On avait parlé de la Grèce, on a parlé de l'Égypte, et puis quelque part, la femme est toujours obligée de se défendre, et on repart vers 2000 ans, et on a beau écrire, et on a beau faire des spectacles, elle ne sort pas de, comment dire, de sa prison. Et on est dans l'actualité. De voir une artiste régionale faire un spectacle aussi important, je dirais.
Et vous aviez déjà vu ces anciens spectacles, Abattoir, Fesses ?
J'ai vu Fesses, oui.
Vous pensez que c'est la continuité ?
C'est différent. C'était plus le culte de la personne, Fesses, alors que là, elle est dans le combat. Moi, je le ressens comme ça. C'est une évolution.
C'est indécent. Allez, habille-toi. Non mais habille-toi et mets de l'ordre.